Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, K.R. Kevin Raphaël.
Il est 1h du matin.
En ce moment, ou quand les gens nous écoutent...
Ben ça se peut que s'ils nous écoutent, mettons, en Chine.
Pourquoi tu nous écouterais en Chine?
Ben pourquoi tu nous écouterais pas en Chine?
À la Chine.
Non, en Chine. En Chine.
En Chine?
En Chine.
Puis il est 1h du matin en Chine.
Non, il est 1h du matin dans le studio.
Sois respectueux du studio. Hey!
C'est pas mon studio.
T'as-tu un sans restriction du temps des fêtes?
On est là, on fait des podcasts depuis qu'il est 8h.
Hey, pour vrai, allez acheter Butch Bouchard en librairie. Cadeau de Noël, on est à quelques jours de Noël. Allez acheter votre copie.
Blablabla, bla, bla, voici les entrevues. Bouchard.
Non, non, attends, la force. Non,
j'en parle même pas.
Ben oui, faut qu'on achète des billets pour la force.
Bon.
Rimouski, Rivière-du-Loup, c'est nos destinations du mois de janvier.
Non.
On a un gros horaire du temps des fêtes.
Non.
On a les pots et les fleurs et les pots qui s'en viennent la semaine prochaine. On a un spécial, c'est pas le Boxing Day, c'est le Wrestling Day.
C'est la jour de lutte, traduit
jour de lutte, le 26 décembre, avec le 20, ben en fait, oui, le 26 décembre, avec des entrevues avec Lufisto, la meilleure lutteuse québécoise de tous les temps, Evil Uno, D.E.W., et Matt Menard et Angelo Parker, deux de nos coups de cœur, qui sont aussi du côté des AEW. Et le 2 janvier, ben, on vous fait un cadeau du nouvel an. Nul autre que Kevin Owens! Et si vous avez écouté l'entrevue de Kevin à Sans Restriction avec Kev, ben, c'est une toute autre entrevue qui nous donne.
Donc là, tu vas répéter la même chose pour chaque intro qu'on va faire.
Et oubliez pas mes chroniques du temps des fêtes sur le
tvsport.ca.
Mon temple, la renommée, le temple de la renommée de la lutte au Québec, qui est sorti sur le tvsport.ca. Et également, la revue de l'année, le 31 décembre. Kev, on a un show spécial aujourd'hui parce qu'on est en vacances.
No shit qu'on a un show spécial, il est 1h du matin.
On est en vacances, nous, en ce
moment.
Non,
on n'est pas en vacances! On est en studio à 1h du matin! Tu dis, on est en vacances, fuck.
Et on a trois belles entrevues à vous offrir. Trois Québécois qui nous représentent bien autant au Québec qu'à l'extérieur. Tout d'abord, PCO.
Lui, on l'aime.
J'ai hâte à celui que t'aimes pas.
Oh, mais, we all know.
Mais PCO qui a eu une année à Impact, qui a bougé beaucoup avec en plus Honor No More qui est plus là à la fin de l'année. Donc, on parle à PCO puis il nous raconte bien des choses qui ont failli se passer en 2022 puis qu'est-ce qu'il veut pour 2023. Mike Bailey.
Lui, on l'aime.
On l'aime aussi. Hein?
Oui.
Mike Bailey, j'adore parler avec lui de tout ce qui est analyse, booking de lutte. Il y a une vision de la lutte très particulière, mais en même temps que j'adore. Donc, entrevue avec Mike Bailey.
Challenge.
Absolument. Et finalement, une entrevue avec Zach
Patterson. Bon! Il est 1h du matin. Il est 1h du matin, tu me fais parler de Zach Patterson. Moi, je suis canté en ce moment. Comment tu sens-tu bien?
Zach Patterson, qui a eu une première année complète dans le monde de la lutte en 2022. Et qui fait sa première apparition sur les antipodes de la lutte. Ça a bien été quand même.
Hey, man, il m'a cherché, là.
Il t'a-tu cherché? Moi, je pense qu'il t'a trouvé. Bref, PCO, Mike Bailey, Zach Patterson, ça commence maintenant. Alors, on est avec une légende du monde de la lutte au Québec, nul autre que PCO. Comment ça va, mon Carl?
Ça va bien, toi?
Ça va. Carl, évidemment, bon, on te reçoit pour notre podcast de fin d'année ou nos entrevues de fin d'année. Donc, écoute, t'as eu quand même une année 2022 remplie, entre autres, avec Impact, rivalité avec Jonah, Honor No More, qui, excuse-moi le jeu de mots, mais qui est No More. T'as lutté contre Onita. Qu'est-ce que toi, t'as retenu, là? Qu'est-ce qui a été tes faits saillants de ton année 2022?
Ben, j'en ai plusieurs, là. Vraiment plusieurs. Tu veux dans ça en ordre d'importance ou un peu...
Vas-y, comme ça te tente, mon Carl.
Ben, écoute, si on y va chronologiquement, la feud avec Jonah, ça a été quelque chose qui était assez incroyable, là. Ça a fini aussi avec une grosse victoire, pis tout ça, tu sais, c'est quand même important. On pense que c'est pas important dans la lutte des grosses victoires, mais elles sont quand même importantes, tu sais, pis, c'était quand même Fiouti était quand même tiré sur quand même plusieurs choses. Ça a été long, c'était comme 3-4 combats. Ça, c'était comme le point culminant. Après ça.
Le Monster Ball match, là, que tu parles. La grosse victoire, c'est le Monster Ball.
Le Monster Ball match qui a eu lieu à Poughkeepsie, New York, je pense.
Ouais.
Je pense que c'était la finale, là, puis c'est le dernier match de soirée en plus. Puis aussi, il y a plein de choses. Là. Honor No More, je pense que quand Honor No More, ça a été fini. C'est sûr, ça a été tough pour les gars, parce qu'à chaque fois qu'on rentrait, tu fais crier PCO tout le temps, t'es supposé être le stable le plus détesté de la compagnie, puis c'est tout le temps, tu sais, comme un genre de chant qui arrive au travers de ça, mais je pense que même avec ça, les fans semblaient avoir quand même, tu sais, on dirait qu'ils aiment détester comme une faction, fait que on dirait que c'est la fête de quoi aux fans qu'on a No More.
Mais ça, à l'interne, Carl, ça devait pas être évident, parce que bon, les gars, dans le fond, Honor No More existe plus parce que les gars s'en allaient d'Impact. Vous autres, à l'interne, vous devez le savoir depuis un certain temps. Comment est-ce qu'on vit ça à l'interne quand tu le sais qu'il y a un clan qui va être laté, t'en fais partie, puis la raison pourquoi ça va être laté, c'est que les gars quittent la compagnie?
Ben, ça a été fait au... Parce que Impact, tu sais, on vient de signer un gros deal avec DAZN, qui est le diffuseur
de
l'application de NFL. Fait que, tu sais, c'est un deal dans 176 pays. Bon, Impact, au début, tu sais, ils n'étaient pas trop sûrs comment ils étaient pour gagner leurs affaires. Ils ont fait beaucoup des contrats de 3-4 mois. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a comme joué contre eux autres, parce qu'ils avaient comme locké ou si, bah, tu sais, des signés pour un an et demi, mais ça leur a donné plus de latitude. Parce que là, ils ont poussé Honor No More très fort, puis après ça, ben, les gars, ils ont décidé, tu sais, d'aller de où c'était peut-être mieux pour eux autres, t'sais. Mais tu sais, ça n'a pas nécessairement dit que ça a été mieux non plus. Ils ont peut-être plus d'argent, peut-être pas plus un meilleur storyline qu'il y avait avec APAC, qui était bien placé dans toutes les histoires, qui était au top de l'émission, si tu veux, là. De toute façon, ben, ça s'est bien passé parce que moi, j'ai toujours eu une relation impeccable avec Matt Taven, avec Bennett, avec Maria, avec Vinny. Les membres, là, il y avait tellement un respect qui était fort dans cette faction-là. Moi, ça m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup, parce que j'entends des fois, je passe en arrière de Taven à des places, des signatures d'autographes ou d'autres shows, puis c'est toujours des mots positifs qu'ils ont laissés à propos de moi. Puis moi, c'est pareil à propos de l'autre. J'ai rien à dire contre l'autre. Les gars, ils ont été vraiment professionnels sur toute la ligne. Puis tu sais, tu te souviendras que quand j'ai viré contre tout Honor No More, j'ai tout tabassé, puis j'ai tout passé un par-dessus l'autre, tu sais. Ils ont été business, les gars. T'sais, ils ont pas dit « Ah, oh, on fait ça à peu près. » Ils ont vraiment été business, les trucs. Moi, ça m'amène dans ce qui peut-être. Je trouve que Impact Wrestling était la compagnie qui a mieux joué Frankenstein, qui l'a le plus développé, qui l'a le plus. Tu sais, qui ont tout fait passer au travers de la reine, tu sais, réanimé avec l'électricité, enterré dans le désert du Nevada, des matchs cinématiques. Je pense que c'est la compagnie qui m'a donné le plus, puis. Puis moi, sur l'autre côté, je les ai donné aussi beaucoup dans le sens que il y a beaucoup de deals qui auraient pu avoir lieu. Puis j'ai comme renforcé avec eux autres en disant OK, ben si on peut faire six autres, mettons, All Elite veut faire un deal avec nous, mais qui sont pas prêts à trader, mettons, un gros nom en échange à ce que moi j'aille là-bas, ben on fera pas l'échange. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. Je pense qu'on est arrivé à une place avec Impact où faire des échanges, que c'est juste bon pour All Elite Wrestling, je pense que c'est fini ce temps-là. Il faut que ça soit gagnant-gagnant maintenant. T'sais.
Ben, écoute, j'aime que t'en parles parce que, premièrement, bravo pour... J'ai pas eu la chance de te le dire parce qu'on c'est pas comme si on se parlait beaucoup, là, mais bravo pour l'entrevue que t'as faite à Busted Open au début de l'année ou au milieu de l'année. C'était vraiment, vraiment bon. J'en avais même parlé sur le podcast à quel point c'était bon. J'avais même, je pense, texté Pat pour lui dire. Puis, un des sujets qui était revenu durant l'entrevue, c'était que les gens là-bas trouvaient que c'était pas mal un one-way, là, l'échange de talent de All Elite. Peux-tu développer de ton côté, c'était quoi ta vision par rapport à ça?
Ben, moi c'est sûr que, tu sais, quand je vois, mettons, Kenny qui est venu, puis qui a tout ramassé à Impact, puis qui est reparti avec tout, ou qui a droppé, mettons, la ceinture à Cage, qui était un autre gars d'All Elite à Impact, tu sais, pour moi, ça tenait pas la route, t'sais. C'est là que je trouve qu'au début, on donnait trop, tu sais. Puis que je pense que là, avec les deals qu'on a ramassés, puis avec tout ce qui se passe, je trouve que la production d'Impact est quand même très, 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 très bonne en point de production. Je sais pas, en grosseur de foule encore, tu sais, on travaille encore là-dessus, mais on a comme un gars qui vraiment, on a un gars qui s'occupe de, un gars qui a pas eu de zone, justement, Lou D'Angeli, là. C'est tellement une grosse tête du PR, c'est un ancien qui a travaillé pour les Canadiens de Montréal, il a travaillé pour le Cirque du Soleil, il a travaillé pour la WWE. Lui, vraiment, je trouve qu'il défriche beaucoup de terrain. Fait que je trouve qu'il est bon pour tout ce qui se passe à l'arrière de la caméra. Je pense qu'on a une belle équipe de production, puis je pense que l'équipe créative est vraiment forte.
Mais quand t'as des opinions comme ça, ou quand t'as des idées, ou quand t'as des choses que tu veux dire à voix haute, sens-tu que t'as le avec tout le bagage d'expérience que t'as, le fait que tu es une légende, que tu peux leur dire, ou tu fais tes affaires puis après ça on verra?
Non, je pense qu'on s'est vraiment rapproché, moi puis Scott D'Amour, les 4-5 derniers mois. Parce que, tu sais, il y avait beaucoup de deals qui arrivaient sur la table, tu sais, pour, les portes ouvertes, là, le Forbidden Door, si tu veux, là. Mm-hmm. Compagnie qui approchait Scott, non, pour avoir un PCO, puis je pense que j'ai tout le temps montré mon intégrité à Scott par rapport à Impact, que, tu sais, c'est eux autres que je travaille pour eux, ils me payaient un bon salaire. Et créativement, il s'occupe bien de moi, parce que j'ai pas été genre, c'est bon pour PCO, je le prends, puis vous m'avez dit, oui, que, tu sais, je pourrais faire tout ce que je veux, puis tout ça. J'ai vraiment joué à l'intégrité, puis je trouve que ça paye, tu sais, je trouve que ça me revient sur l'autre côté. Je trouve qu'il m'en, tu sais, c'est rare que les propriétaires vont texter directement les talents. Ils vont passer par le head of talent, ou ils vont passer par un producer, ils vont passer par un autre créatif. Mais je trouve que j'ai vraiment sollicité mes relations, tu sais, avec Scott D'Amour, puis avec les Tommy Dreamer, puis tout le monde qui est en charge de la compagnie. Mais moi puis Scott, je pense que j'ai une relation aussi solide, là.
Nice.
Ça, c'est pour moi c'est important. C'est pas juste le gros match qui est important, mais c'est l'ensemble de tout ça, là. Autant en arrière qu'en avant, faut que ça aille bien.
Est-ce que ça explique aussi, Carl, un peu pourquoi t'as décidé de re-signer avec Impact? Bon, on en a, c'est j'avais sorti la nouvelle, on s'en était parlé, mais est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi t'as décidé de rester un an de plus avec la compagnie?
Ben, m'a dit les vraies raisons, c'est souvent les choses personnelles, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est personnel, mais en même temps, ça mérite d'être raconté, d'être dit. Quand j'arrivais sur le bord de la fin de mon contrat avec Impact, j'avais déjà approché au début de All Elite, dans le temps que Cody puis les Bucks c'était vraiment eux, là. Impact, All Elite m'avait approché pour faire le main event de Double or Nothing contre Kenny Omega.
Ça, c'est au début de la compagnie, là.
Pas au début de tout, là. Ouais. Tu sais, après All In, j'avais refusé pour signer avec Ring of Honor.
Mm-hmm.
Enterprise. Après ça, ils m'ont rappelé All Elite pour faire un match contre Wardlow. Mais encore là, j'avais parlé avec Scott, puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, parce que là, Tony disait, écoute, on va voir la réaction de la foule. Mais on va sûrement te donner un deal sûr pour Our Weight, puis peut-être pour All Elite aussi. Dépendamment comment tu te vas contre Wardlow. Puis quand j'ai parlé à Scott, il était pas content, mais il me dit, si tu veux le faire, tu peux le faire. Finalement, j'ai dit à All Elite, écoute, mon contrat finit telle date avec Impact. Si vous voulez vraiment faire, moi, j'étais un gars d'intégrité, j'ai dit à Scott que, tu sais, oui, Scott va me laisser le faire, mais je sais qu'il est pas content. Alors, j'ai dit, par respect pour Scott, je le ferai pas. Puis j'ai dit qu'avec mon contrat finissait comme ça, mais si vous voulez, jaser, mon jaser, moi, je fais le temps de jaser. Puis quand ça a été la date que mon contrat finissait, ben écoute, Impact, ils ont commencé à me jaser comme deux semaines avant, puis ils voulaient vraiment faire le deal, puis vraiment monter mon salaire, puis mettre plein de nouvelles choses dans le contrat. Puis j'attendais que All Elite se manifeste. Se sont manifestés la semaine après que j'ai fini mon deal. Guys, it's too late, guys. C'est comme... Là, ça marche pareil, mais t'es encore obligé de passer par Scott. T'sais, si t'avais de quoi à m'offrir, ça aurait été le temps. C'est pas de ma faute si le gars qui m'a appelé, c'était pas Tony, parce que c'était pendant le repêchage de la NFL. Tony était bien occupé. C'est un autre gars. Puis là, ils ont pas pris la date que mon congé est. Je finis au mois d'octobre. Fin octobre ou début octobre, mais c'est pas exactement. J'avais dit à la date pis tout pour qu'ils comprennent. Il n'a pas écrit, c'est son problème. Après ça, Christopher Daniels m'a rappelé pour un autre événement. Là, j'étais déjà signé. Fait que j'ai dit à Christopher, faut-tu avec Scott. Puis tu sais, ça, il aime pas ça parce que Scott, à cette heure, il demande des choses en retour.
Je comprends.
Le PCO, il spill de tea, là. Mais non, mais c'est vrai, parce que, tu sais, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que souvent, on entend, puis on a entendu avec d'autres Québécois qui ont quitté la compagnie, et c'est compliqué, les ressources humaines là-bas, disons, là. Mm-hmm. Puis là, ton histoire fait encore juste confirmer que peut-être qu'il y en a qui en ont trop sur leur table.
Ben, des fois, je trouve qu'ils... Ça va quasiment à semaine à semaine, tu sais. Mais c'est pas un arc que je fais à eux autres, tu sais. C'est gros, là. Ça va vite, ça, toutes les semaines. Tu sais, ils ont pas beaucoup de temps à reposer, là, tu sais. Puis ça part. Puis tu sais, je trouve qu'ils sont quand même bons dans ce qu'ils font, là. Mais c'est sûr que je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Il y en a qui sont pas utilisés. Moi, c'était un peu ça. J'aime autant être avec Impact pour le moment, pour une année de plus. Puis être dans chaque plan, puis d'être dans tous les gros main events, dans tous les gros événements, que tu sais, depuis que Taven, Bennett ont signé, je pense qu'ils ont deux matchs de fait à date. J'ai des gars, j'y vois pratiquement jamais, des gars comme Brian Cage, j'étais des gars talentueux, je pourrais en nommer d'autres, The House of Black, tu les vois pas souvent. Un paquet de gars que tu vois pas souvent. Je trouve que sont peut-être overstaff, je sais pas trop, j'essaie pas de savoir c'est quoi eux, j'essaie de me concentrer sur moi, sur qu'est-ce que je contrôle, puis comment que moi je peux faire évoluer mon personnage le plus possible pour me mettre dans une position que, bon, si Impact grossit, puis encore plus de moyens, tant mieux, puis si ça fait une course à deux ou à trois, ben je vais me mettre dans une position pour être capable d'aller... aller chercher de quoi que je recherche depuis longtemps.
Dis-moi, Carl, t'as fait quelques promotions indépendantes au cours de l'année, t'en as pas fait une tonne, mais on t'a pas vu au Québec, puis ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu au Québec. Est-ce qu'il y a une raison? C'est-tu les promotions qui cognent pas à ta porte? C'est-tu toi qui dis non?
Non, toutes là sont intenses. Ça c'est C4, que ce soit Toronto, Destiny,
Manny, Steve, Lucha, tout le monde.
Lucha, la compagnie de l'autre de Toronto.
Ouais.
Smash.
Il y en a-tu au Québec? IWS, NSPW, j'imagine. Ouais.
NSPW à tour de bras avec Steve. Mais j'ai expliqué au gars, je fais mon green card. Là, je faisais ma green card, faisais jouer aux États-Unis entre 6 et 18 mois. Okay. J'étais en train d'avoir ma green card avant de pouvoir venir au Canada. Finalement, pour raisons personnelles toutes, même pas rapport avec la lutte, j'ai été obligé de revenir à Montréal pareil. Là, okay. Je pensais que le genre American Dream, là, mon rêve d'Arnold Schwarzenegger d'avoir une double, d'avoir une citoyenneté américaine, tout ça, je suis dit, ah, ça tombe tout à l'eau, faut que je rentre, j'ai pas le choix, là. Puis je suis rentré, puis finalement, ben, mon avocat d'immigration, il dit, écoute, on peut faire la green card à Montréal, t'es pas obligé de la faire aux États. Là, je me suis dit, pourquoi j'ai pas ça avant? J'ai pas posé la question, il a pas pensé. En même temps, nous avons me permis de faire les shows d'impact au Canada aussi. Puis, un coup, j'aurai ma green card, mais là, je vais pouvoir m'installer aux États-Unis, mais j'aurai pas une restriction où est-ce que je peux pas revenir pendant 18 mois ou 12 mois. Là, j'étais là-dessus depuis le 30 octobre, en réalité. J'étais pas supposé revenir au Canada dans 7 à 18 mois.
Mais là, ce que tu nous dis, dans le fond, là, c'est que les promoteurs québécois qui veulent te booker, c'est le temps, là, parce que tu vas rester à Montréal, là, malgré ta green card.
Ben là, ils sont mon mal au courant, ils ont le temps de m'appeler. Le mot se passe assez vite dans le business.
Ben là, ça veut-tu dire que... Parce que moi, tu sais, j'ai un problème avec un lutteur, là. J'ai un problème avec... son nom, c'est Zach Patterson. J'ai un problème avec Zach. Fait qu'est-ce que ça se peut que PCO règle mon problème ou...
je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui vais le régler. Je sais pas. Je sais qu'il y a des pourparlers avec Manny, là, pour... c'est le 19 ou le 11, hein, les deux, là, puisque JCW aussi ouais. m'ont rappelé pour...
Ah, ben oui.
Le show de Toronto. Là.
Ouais, ouais.
Puis là, Australie aussi m'a appelé pour... Tu sais, j'aurais pas pu faire Australie non plus. Mais là, Australie, j'étais souhaité faire leur 50e chose. C'était Battle, quelque chose. En tout cas, la assez grosse promotion en Australie. Mais Australie, ça fait comme 5 ans qu'ils veulent que j'aille là-bas. Ça n'a jamais donné. Puis ça donnera pas plus cette année parce que ça tombe pendant les tapings avec Vegas, d'Impact aussi.
Mais le Québec, là, t'es en train de dire qu'on pourrait voir PCO au Québec en 2023, là.
Puis il est en train de dire qu'il va régler mon problème.
Par exemple, je trouve ça compliqué, le Québec, Pat, pour te dire. Parce que je trouve qu'il y a tellement de compétition entre les promotions que si tu fais le premier show à NSPW, tu es une affaire fâchée deux. Si tu fais ton premier show à IWS, tu es une affaire fâchée deux autres. Je trouve ça vraiment un conseil. C'est dur de faire plaisir à tout le monde. Moi, je suis genre un gars que j'aime pas décevoir personne. C'est ça mon problème pour le Québec. T'sais, IWS, pour ça, c'est la plus grosse promotion au Canada. NSPW, dans Gamma, sont gros aussi. Puis FML, ils font des assises des grosses foules pareilles.
Non, non, je comprends.
Des grosses, là.
Je comprends, je comprends.
Toutes les autres, là. Il y en a un paquet d'autres, tu sais, qui ont beaucoup de succès, là. Mais les trois principales que je viens de te nommer, là, puis t'avais aussi, t'as eu une chose aussi qui est Main Event, là, les Patterson, là.
Oui.
Pas Zach, mais Mike, ton frère, là.
Les chances, c'est pas Zach.
Eux autres, c'est des vrais Patterson.
Il y avait eux autres aussi qui étaient agressifs, là, qui avaient beaucoup de sous, là, qui faisaient des offres incroyables, là. Mais c'était tout la guerre partout. Tu sais, t'avais aussi Dina et Carl, à un moment donné.
Ouais.
Qui ont fait le gros show à Montréal au Rock'n'Roll Show, là.
Ouais, juste pour rire et tout, là, ouais.
Ah ouais, fait que, tu sais, mais à chaque fois que tu veux prendre un engagement avec quelqu'un d'autre, c'est la guerre.
Hey Carl, dis-moi, on t'a pas vu depuis le 21, le dernier match qui a été enregistré de toi, c'est avec Eddie Edwards, le Dark Street match. Corrige-moi si je me trompe, là, mais t'as été enterré à la fin de ce match-là. On t'a pas vu depuis. Est-ce qu'on peut s'attendre à revoir PCO à Impact bientôt?
Ben, je pense que ça sera pas le French Canadian Frankenstein. PCO, t'as pas de retour à un moment donné pour un gros show. On veut pas vendre la mèche partout
ben
dans le monde entier, mais
ben
Hard to Kill, c'est un des plus gros pay-per-view de l'année à Atlanta le 13 janvier, un vendredi 13. Je sais pas ce que t'en penses, Pat, un vendredi 13.
Un vendredi 13, d'avoir le monstre de Frankenstein, je pense que c'est. Je pense que c'est un en anglais, on dirait un match made in heaven.
Je pense que
les étoiles sont alignées. Bon, ben, mais tu m'as rien confirmé, puis ça, c'est correct. Mais on jase.
Non,
on fait juste jaser. On jase, Carl. On jase.
J'ai juste pas le droit d'en parler sur Twitter.
Hey, Carl, dis-moi, en terminant, 2023 est à nos portes. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? Toi qui, et je l'ai souvent dit, là, t'as probablement le plus beau retour du sport professionnel québécois À part peut-être Guy Lafleur et Mario Lemieux, là. C'est fou ce que t'as accompli depuis que t'as décidé de revenir. Et malgré les années, t'es comme le bon vin, on dirait que ça s'améliore année après année. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2023?
Ben, cette année, en tout cas, vraiment, là, la ceinture champion du monde Impact, ça serait vraiment quelque chose qui serait important pour moi, là. Puis aussi, un gros match d'envergure incroyable à Orléans. J'espère qu'on va être capable de faire les échanges nécessaires pour que ça puisse se matérialiser. Je pense que ça, c'est deux projets qui me tiennent vraiment à cœur.
Hey, merci, mon Carl. Hey,
mais Carl, pour vrai, écoute, on te souhaite d'avoir ça, d'avoir ce gros match-là du côté dans l'Elite Wrestling et puis le titre d'Impact. Encore une fois, belle année 2022. Continue, Carl, c'est le fun de te voir aller. Et puis, une belle année 2023 pour toi.
Hey, moi, je veux vous féliciter chacun pour votre excellent travail avec la lutte à Raw, puis aussi Kevin pour la force de Montréal.
Ah, oh, awesome.
Puis Pat, ton lancement de livre de Butch Bouchard, c'est vraiment incroyable. Merci de m'avoir invité. Puis Kevin, tu veux me lancer une invitation pour la force avec Destro? Moi, on est partant pour aller voir.
Hey, 100%, man. On va s'arranger pour être le plus possible dans ton coin, mais 100%, puis je vais demander à Pat tes coordonnées, on va t'envoyer du gear.
Ah, pas de stress, man.
I got you.
Tu vas voir, les affaires vont s'aligner à un moment donné, je fais juste te l'offrir.
Ah, je suis très heureux.
C'est tellement un move incroyable. Beau geste de ta part.
Ben, merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Puis venant de toi, je le prends encore plus.
Merci mon Carl. Merci mon Carl. Puis on s'en parle bientôt.
Salut, bonne année 2023.
Bye bye. Alors, on est avec l'un des Québécois qui nous représente le mieux à l'international. Nul autre que Speedball Mike Bailey. Mike, vraiment content de te revoir ici sur le podcast des Antipodes de la lutte.
Merci de me recevoir, Pat. Toujours un plaisir.
Hey, écoute... Non, moi, si je suis là, hey! Hey, hey, hey. Oh, disrespectful.
T'es là, mon Kev.
Non, le gars, il gagne le TNA X Division Championship. Le gars, il fait des Match of the Year contender every day, every week, week in, week out. Le gars, il est comme one of the talk of the town dans le monde de la lutte. Puis, yo, il m'est même pas acknowledge. Okay,
mais, Kevin, ta caméra est éteinte présentement. On m'a pas mis au courant si c'était juste audio ou si c'était vidéo aussi. Je sais même pas si t'es là pour de vrai ou juste...
un robot!
S'il faut que tu blâmes quelqu'un, blâme Pat qui m'a pas mis au courant de...
Oh wow!
C'est exactement.
Non, c'est juste audio. Les gens n'ont pas besoin de voir ma vieille gueule aujourd'hui.
Hey, écoute, Émile, oh mon Dieu, Mike Bailey, excuse-moi. Mike...
peu importe, honnêtement.
Peu importe,
là.
Ouais, t'es à l'aise. Ben, c'est drôle que tu dises ça, peu importe, parce que j'ai eu la réflexion récemment que les lutteurs professionnels, c'est les seuls artistes qu'on appelle par leur nom de personnage tout le temps.
C'est pas vrai? Les rappers?
Oh!
OK, t'as raison, mais c'est rare, c'est quand même rare, tu sais, puis bon, un rapper, c'est un chanteur, tu sais, mais vous êtes plus acteur que chanteur, et je veux dire, t'appelleras pas Tom Cruise, Ethan Hunt, son personnage dans Mission Impossible, tu vas l'appeler Tom. Je trouve ça, j'aime ça, tu me réponds, peu importe, parce que c'est pas la mentalité de tout le monde.
Je trouve que, oui, mais les acteurs, puis il y a... Tu sais, tu nommes Tom Cruise comme exemple, c'est pas le seul rôle qu'il joue, il en joue plusieurs, donc c'est Tom Cruise qui reste le plus du temps. Puis aussi, Tom Cruise, quand il joue un rôle, a le luxe d'exister seulement dans le film, tandis que quand t'es un lutteur ou que t'es un rappeur qui fait des apparences dans les médias, puis tout ça, tu sais, faut toujours que tu restes un peu en personnage. Ça disparaît, l'aspect de... Le personnage que je joue à la télévision ou peu importe quand je fais des matchs reste quand même pendant la plupart des entrevues. Puis, tu sais, la lutte, c'est une expérience immersive. C'est pas quelque chose qui se passe juste depuis les années, je te dirais, début 2000. Quand tu es un personnage de lutte, tu n'es plus seulement le personnage en une tranche de 20 minutes le lundi soir, puis ça finit. Faut que tu restes le personnage sur les médias sociaux tout le temps. Puis, tu sais, il y a plus de manières d'interagir avec Mike Bailey qu'il en avait avec Kane en 90. Kane n'aurait pas été bon sur Twitch ou YouTube. Ça aurait juste été... surtout quand tu parlais avec la voice box et sa voix de robot. Ça aurait été vraiment plate d'écouter la chaîne YouTube de Kane en personnage. Mais il n'y en avait pas besoin parce qu'il existait seulement 15 minutes par semaine.
Non, c'est une belle analyse. Non, absolument. Absolument, c'est une belle analyse. Où je voulais m'en aller, par contre, c'était pas là-dessus, mais je veux juste qu'on parle de l'année 2022 rapidement. Selon Cage Match, t'as eu 132 matchs. C'est plus de deux par semaine. T'as lutté en Allemagne, en Irlande, en Angleterre. T'as recommencé à lutter aux États-Unis. T'as lutté dans 20 États différents. Deux provinces au Canada. T'as gagné le titre X-Division à Impact. Et tu t'es marié. Oui. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ton année 2022?
Honnêtement, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de « wow, je suis étonné que j'en ai fait autant ». Non, c'était exactement ce que je voulais faire. Après avoir passé 5 ans en dehors des États-Unis puis 2 ans de pandémie à attendre que cette année-là arrive, je veux dire, ça s'est passé exactement comme j'espérais qu'elle arrive. J'inclus le mariage aussi là-dedans, qui est quelque chose que je m'attendais, que je voulais faire, qui faisait partie du plan depuis le début.
Quand tu sais que je t'aime beaucoup, là, je suis fan de tout ce que tu fais. Quand tu luttes pas aux États-Unis pendant 5 ans, OK, la première fois que tu retournes, est-ce qu'il y a un peu d'excitation ou c'est un peu anxiogène parce que t'es comme, God damn, ils m'ont pas vu pendant 5 ans ici, puis là, je retourne, puis là, c'est go, là?
Les deux vont ensemble, hein, l'anxiété et l'excitation, mais je te dirais que c'est quelque chose que je ressens très peu. Puis, je suis toujours très rapidement avalé par la logique de tout. Tu sais, mon premier match aux États-Unis, c'était Hard to Kill, qui était un four-way. Moi, Chris Bay, Laredo Kid, puis Ace Austin, Impact. Puis ça m'a vraiment pas pris longtemps d'apprendre que j'avais le match, de commencer à penser au match, logiquement, comment on allait construire ça dans ma tête. Puis dès que ça arrive, dès que je suis dans cette mode-là, c'est juste ça qui reste, puis il n'y a plus d'anxiété. Il n'y a pas vraiment d'excitation non plus. C'est juste de penser comment je peux faire, comment je peux donner la meilleure performance. Puis c'est ça qui enveloppe 100% mon esprit.
Ouais, mais j'ai un take, je vais te laisser aller après, mais juste un take vite, parce que je pensais à ça dernièrement. Puis je crois pertinemment que avec toi dedans, avec Laredo Kid, Chris Bay, toutes les boys qui sont là en ce moment, c'est la meilleure X-Division d'Impact depuis all time. C'est la meilleure X-Division. C'est la plus complète all time. Là. Même avec AJ, avec Christopher Daniels, avec Kazarian, je trouve qu'il y a plus de potentiel maintenant au complet qu'il y en avait avant. Qu'est-ce que tu réponds à ce hot take-là?
Mais je suis 100% d'accord. Je trouve pas que c'est un si hot take que ça. Je trouve que c'est... Man, si tu dis le contraire, je vais t'obstiner que t'as tort pendant des heures, ça me faire plaisir. Mais la lutte en 2022 est de loin meilleure qu'elle l'a jamais été. Je veux dire, tu peux pas dire le contraire. Avec l'accès à l'information, puis la qualité des combats, puis l'effort que le monde met aujourd'hui d'en donner la meilleure qualité de combat possible. Je veux dire, ça, c'est sûr que c'est vrai, mais aussi t'as raison. En plus de que la lutte maintenant est juste meilleure. Oui, c'est le talent qu'il y a dans la X-Division maintenant. C'est il n'y a pas beaucoup de monde qui ont abouti là. Il y a du monde qui veulent être là. Il y a du monde qui ont toute la même idée en tête dans le genre de combat qu'ils veulent présenter. Puis je trouve que ça paraît vraiment à l'écran.
Tu dis que la lutte a jamais été aussi meilleure qu'en 2022. Puis tu as eu la chance, toi, d'affronter justement parmi... Et je te considère là-dedans, mais parmi les meilleurs lutteurs au monde, tu as lutté contre Kenta, Dax Harwood, Jacob Fatu, Will Ospreay, Trey Miguel avec Impact.
contre qui t'as aimé le plus lutter ou quel adversaire que t'as aimé le plus affronter là, dans la dernière année?
C'est difficile de me demander des questions comme ça parce que je pourrais te nommer une longue liste puis j'en oublierais tellement. Mais je te dirais que Will Ospreay, que je considère comme peut-être le meilleur lutteur au monde présentement. Je veux dire, c'est sûr que l'idée du meilleur au monde, c'est très subjectif puis ça varie beaucoup. Mais techniquement, c'est clairement un des meilleurs lutteurs au monde. Puis je veux dire, c'est même pas juste une opinion, ça. C'est un fait. Takeshita, Konosuke Takeshita, que j'ai lutté à West Coast Pro cette année, c'était, je pense, notre troisième ou quatrième match en simple. Toutes les autres qui sont passées au Japon, mais que lui aussi, qui vient d'arriver à AEW, qui est clairement un des lutteurs meilleurs au monde. Je te dirais que ces deux-là, il y a beaucoup de monde que j'ai lutté pour la première fois aussi, donc c'est dur de comparer. Tu sais, j'ai lutté contre Kenta, Dax Harwood dans les deux dernières semaines. John Moxley aussi, que le monde parle beaucoup. Mais c'est tout du monde que je luttais contre pour seulement la première fois. Donc, c'est dur de comparer mon cinquième match contre Will Ospreay à mon premier match contre John Moxley. Mais je te dirais que Ospreay et Takeshita, c'est vraiment ceux que je trouve que je connectais le mieux cette année.
Puis juste avant de te laisser, Kev, mettons tu me parles de ton match préféré de l'année, parce que des fois, c'est pas nécessairement contre, tu sais, un Will Ospreay ou un Kenta, tu sais, mais ton match préféré, y a-tu un match qui est vraiment, que tu dis, wow, ce match-là, là, c'est je vais m'en rappeler longtemps, puis c'est pas nécessairement contre un top guy, tu sais, ça peut être contre n'importe qui, mais y a-tu un match là, qui te parle un peu plus dans la dernière année?
Oui. Il y en a un qui s'est passé récemment, qu'on va voir à la télévision, j'espère, ce jeudi. Ah, je sais pas, ça dépend quand tu ressors le podcast, là, mais...
À la fin de l'année.
À la fin de l'année, OK, oui, donc... ouf, c'est dur, encore une fois, parce que je l'ai pas vu le match. Au moment où on se parle, il a été enregistré il y a trois semaines, je pense. Mais j'ai lutté une heure contre Josh Alexander. Ben, pas une heure, 59 minutes et 55 secondes. Contre Josh Alexander à Impact, qui est de loin le match le plus long que j'ai jamais fait, avec quelqu'un qui est clairement un des meilleurs au monde en Josh Alexander. Je ne l'ai pas encore vu. Encore une fois, ça passe à la TV ce jeudi. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va ressortir. Mais c'est vraiment un des préférés cette année, clairement.
Sinon, ils vont mettre l'heure complet?
Ils vont pas mettre l'heure complet à la télévision, mais on a lutté l'heure complet qu'ils vont mettre sur YouTube. J'espère, si je me trompe, je suis désolé. Mais je pense qu'ils vont mettre l'heure au complet sur YouTube, mais à TV, ils vont couper ça avec les commercials. Mais on a lutté un vrai 59 minutes et 50 secondes. Sinon, j'ai plein de matchs que j'ai adoré aussi. Contre Trey Miguel en simple, ma première défense du site X-Division, qui est un de mes matchs préférés. Je pense que le match était parfait. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas été aussi remarqué. Je pense que c'était en début de carte, puis c'était à peu près 12 minutes, mais le match était vraiment excellent. C'est vraiment un des rares matchs parfaits où je peux rien dire qu'il y a eu de mal. Mais c'est, j'ai beaucoup de combats qui ont été comme ça cette année, qui ont été courts, pas en finale ou dans des petites salles, donc ils n'ont pas été remarqués autant qu'ils auraient dû. Puis je trouve que c'est dommage. Sinon, un dernier match que je retiens beaucoup, que j'ai adoré, qui est un match en simple que j'ai eu contre Jordan Oliver lors des 9 matchs que j'ai eu à la fin de semaine de WrestleMania, parce que j'étais supposé de lutter contre PCO cette soirée-là à GCW, un match qui s'est pas passé, que j'ai appris à dernière minute que je luttais contre Jordan Oliver. Je suis arrivé à la salle dans le milieu du match avant le nôtre.
Puis on a lutté quelques minutes avant.
Quelques minutes avant, on a lutté un bon 15 minutes. Puis le match était pas excellent. Le match était pas aussi bon que si j'avais su beaucoup plus tôt que j'allais lutter contre Jordan Oliver. Mais c'est vraiment c'est un de mes matchs préférés pour cette raison-là. Puis j'aimerais que plus de monde connaisse l'histoire derrière, mais cela aussi, ça a été un impression.
On en avait parlé, j'en avais parlé sur le podcast, puis également dans ma chronique à l'époque, parce que bon, oui, j'étais backstage, j'étais vu arriver, puis je suis comme fait. c'est vraiment un match à la Mike Bailey. Tu vois, t'es arrivé, vous avez à peine préparé les choses, puis t'as livré la marchandise, puis t'as raison, plus de gens devraient connaître l'histoire en arrière de ça, puis je suis content que tu mentionnes ça. Kev, je te laisse aller.
Souvent, souvent sur le podcast, je parle avec Pat, puis je dis, lui, quand il arrive sur le ring, le mood change. Puis je dis, il y en a pas beaucoup que... T'entends la musique, le mood, il change. Je passe à Roman Reigns. Je passe à Kenny Omega. Quand Will Ospreay vient sur le ring, là, à, ou s'amène sur le ring, ou de tous ceux que t'as affronté, John Moxley, Will Ospreay, est-ce qu'il y a un lutteur que tu dis, man, quand ce dude-là arrive, le mood change?
Je pense que je me sentirais mal de donner une courte liste parce que c'est vrai pour tous les lutteurs qui sont réellement bons. Je veux dire, ton entrée puis ta présence fait partie de tes matchs, puis au fil du temps, c'est quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose que tu perfectionnes. Puis vraiment, tu sais, c'est pas nécessairement changer le mood, mais c'est l'adapter à ce que tu fais dans le ring, puis adapter comment tu ta présence à ce que tu fais dans le ring. Puis je veux dire, c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc tu sais, tout le monde qui est bon fait ça à différents degrés, puis il y en a beaucoup que je peux même te dire que tu le remarques même pas. Le mood change, c'est juste ce qu'ils projettent. Puis c'est vraiment quand le monde sont bons, c'est une décision consciente qu'ils font.
Mais peut-être que je m'exprime mal dans le mood change, mais mettons, exemple, quand Roman Reigns s'amène vers le ring, c'est pas la même chose que quand X arrive vers le ring, parce que quand il arrive, là, les gens, il y a quelque chose qui se passe. Là, c'est électrique, là, cette électricité-là. Malgré le fait que tu peux être super bon dans le ring, que tu peux avoir une belle présence, que tu peux avoir un bon booking, un bon si, l'électricité, pour moi, ça se compte sur les doigts d'une main ceux qui sont capables de la créer juste avec l'idée que cette personne-là s'en vient. Puis c'est de là ma question que je te posais. T'es dans le ring, quelqu'un s'en vient, est-ce que t'es capable de sentir aussi cette électricité-là? Puis si oui, c'est qui te l'a fait sentir, tu sais?
Je vais regarder ma réponse, je trouve que tu t'es bien exprimé, mais je trouve que ce que tu décris, c'est subjectif. Je trouve que tous les lutteurs qui sont bons, c'est quelque chose qu'ils font.
OK, j'adore. Mais non, mais moi je suis là pour débattre puis parler de mon point, puis j'adore le fait que tu me l'expliques comme ça. I mean, I like that.
Je veux bâtir sur quelque chose que tu as dit tantôt. Tu as dit ton match avec Trey Miguel, c'était juste 12 minutes, pis c'était parfait. Je sais que tu as un très bon esprit d'analyse de la lutte professionnelle. C'est quoi pour toi un match parfait?
Parfait dans le sens qu'on a vraiment maximisé notre temps, puis qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire en 12 minutes. Il y a des matchs que le monde adore parce que c'est le... Parce qu'il y a 12 mois d'histoire derrière, puis il y a une grosse rivalité, puis tu sais, il va y avoir des ref bumps, puis des run-in, puis de l'action, puis de la production derrière le match. Puis pour moi, ça veut pas... Un match n'est pas nécessairement meilleur parce qu'il y a plus d'histoire derrière. Pour moi, l'idée, c'est vraiment de maximiser, de faire le plus avec ce que tu as. Puis avec Trey Miguel, il n'y avait pas vraiment d'histoire. C'était ma première défense. On s'était déjà battu, mais c'est un 12 minutes froid dans lequel on a réussi à faire un match qui avait aucune longueur, aucun temps pour respirer, aucun temps de répit, qui était pas rempli avec quelque chose à donner à la foule. Puis un match où on a réussi à, tu sais, créer une atmosphère puis compter des histoires beaucoup plus qu'est normal dans un petit 12 minutes. Puis aussi, je veux dire, en termes d'exécution, tout était réussi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont mises ensemble qui font que c'est un excellent 12 minutes. Je te dirais que, tu sais, pour comparer une heure contre Josh à 12 minutes contre Trey Miguel, c'est il y a beaucoup plus de place à l'erreur dans une heure, puis ça va être correct. Puis, tu sais, il y a beaucoup plus de temps pour compter des histoires, puis travailler des dynamiques, puis qu'en 12 minutes. Puis je trouve que quand on juge de la lutte professionnelle, ça devrait être, on devrait juger adéquatement en rapport au contexte. C'est sûr qu'une heure va être différente que 12 minutes. Puis je trouve, encore une fois, que en termes d'analyse de lutte, on donne pas assez de crédit aux matchs courts qui sont exécutés à perfection.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
J'adore ta vision de la lutte. Ta vision de la lutte est très posée et pragmatique. Moi, c'est plus émotionnel et réactif. Quand je te regarde lutter, je suis excité, j'adore tes matchs. J'adore les matchs de la X-Division, j'adore les matchs de ce style-là qui sont faits à AEW. Mais il y en a qui sont pas fans. Moi, j'adore ça. Il y en a qui chialent tout le temps. Des fois, j'écoute Busted Open, les gens disent « Ah, c'est des Spotfests ». Et des fois, j'entends des affaires de Jim Cornette. Quand toi, là, en tant que lutteur, là, t'entends ce genre de commentaires-là, puis je te dis pas… on s'en va à la guerre contre ces commentaires-là, mais toi, en tant que lutteur qui perfectionne ton art à toutes les semaines, à tous les jours, puis qui se met sa vie en danger en faisant des manœuvres qui sont extrêmement risquées, quand t'entends des affaires comme ça, qu'est-ce que ça te fait?
C'est quelque chose avec quoi tu deals toute ta carrière en tant que lutteur. T'entends du monde comme ça. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'années pour le comprendre, mais la plupart du temps, c'est une histoire de contexte, hein? Quand des gens comme Randy Orton vont sur Twitter pour dire « La lutte, c'est à propos des histoires. » Ce qui est important, c'est que tu comptes une histoire, puis les personnages, puis les moves, puis ce que tu fais, ça n'a pas d'importance. Il a entièrement raison. Pour lui, il a entièrement raison. Puis Randy Orton, c'est le meilleur Randy Orton qu'il a jamais eu. Je veux dire, ce qu'il fait, il fait à perfection. Mais quand tu vas à un show de GCW, ou même moi qui lutte aux États-Unis depuis un an, qui est relativement connu, qui est à la télévision, la plupart des gens me connaissent même pas. Je veux dire, c'est fréquent que quand je vois un show de lutte indépendant, la majorité de la foule, la majorité de la foule, à peu près la moitié, me connaissent même pas. Donc, il y en a une. Puis dans ceux qui me connaissent, ils connaissent pas mes moves. Ils sont pas au courant de si je suis heel ou face. Ils connaissent aucune histoire. Tout ce qu'ils veulent, c'est un match qui est excitant. Puis la plupart du temps, quand le monde ont des critiques sur des gens comme les Young Bucks. C'est une histoire de contexte. C'est qu'ils comprennent pas pourquoi ils sont développés dans le genre de match qu'ils sont, puis pourquoi ils sont arrivés là. C'est sûr que souvent, tu sais, il y en a de la lutte qui est juste, les matchs sont pas bons. Ça arrive souvent. Les matchs sont présentés devant le mauvais contexte. C'est pas bon. Les matchs sont ennuyants. Les matchs sont trop ridicules. C'est toutes des erreurs qui arrivent. C'est difficile d'être parfait. Mais non, je trouve que la part du temps, c'est juste une erreur de contexte. Puis, c'est quelque chose que je dis souvent. Tu peux être subjectivement un bon lutteur, tu peux être objectivement un bon lutteur. On dit que l'art, c'est subjectif, mais côté lutte, il y a une objectivité qui est atteignable. C'est à DDT que j'ai compris ça vraiment. C'est facile pour un lutteur d'être over subjectivement devant une foule. C'est facile pour un lutteur d'être capable de faire d'avoir des bons matchs dans un contexte donné. Il est bon à faire une chose. Il est bon devant sa foule dans laquelle il a grandi, dans laquelle il s'est adapté. Mais tu peux être objectivement un bon lutteur professionnel dans le sens que tu as l'habilité de comprendre ce qu'il faut que tu fasses. Un lutteur qui est objectivement bon, on peut le mettre devant n'importe quelle foule, dans n'importe quel contexte, puis il va être bon quand même. J'ai vu des lutteurs... À DDT, on luttait dans des centres commerciaux sur des matelas bleus dans le milieu d'un genre d'agora. Puis, faut être un lutteur objectivement bon pour que le monde qui passe, qui voit, qui s'arrête, qui dise « Wow, lui, il est bon. » Puis, j'aimerais en voir plus. C'est pas tous les lutteurs qui sont capables de faire ça. Puis, je veux dire, de critiquer un lutteur qui est objectivement bon, qui fait ce qu'il fait parce qu'il fait bien, puis il comprend pourquoi et comment le faire, puis dire que moi, j'aime pas ça, c'est pas bon. Ça, je trouve, c'est là que tu dépasses les boundaries un peu.
J'adore vraiment parler de lutte avec toi, ça n'a aucun sens. J'adore ton analyse. Mais je veux t'amener ailleurs l'instant d'une seconde.
Parce que qui dit ça fait changement de parler de lutte avec Kev.
T'as pas idée comment c'est rafraîchissant pour moi. Mais je veux te parler un instant. Tantôt, en début d'entrevue, tu disais, Tom Cruise va jouer plusieurs personnages. Et toi, habituellement, on te connaît sous Mike Bailey. Je veux que tu me parles de Monsieur Baguette. Sorti d'où, ça, Monsieur Baguette?
Monsieur Baguette, c'est un lutteur pour la Impact Provincial Wrestling Federation qui se passe dans les années 80, dont le but, justement, était de me trouver un personnage qui était exactement le contraire de ce que je fais à l'habitude. Surtout le Mike Bailey qui est présenté à Impact, qui est séparé de ma chaîne Twitch, séparé de ma chaîne YouTube où je montre beaucoup plus de qui je suis. J'ai eu pas énormément de temps au micro à Impact, puis c'est quelque chose qu'ils font par exprès de garder mon personnage un peu, tu sais, posé et mystérieux, mais de trouver complètement le contraire, puis d'avoir un accent ridicule, puis un personnage complètement over the top, puis jouer méga heel qui insulte la foule locale, puis qui triche, puis qui donne des coups de poing. Fait que c'est de là que de l'idée, c'est un gros stéréotype. Heel, qui est la chose que je me tiendrais le plus loin possible normalement.
Donc, on risque de le revoir, M. Baguette, là.
J'espère pas, honnêtement, mais c'est très possible.
Je me rappelle quand tu as commencé à Impact, tu avais pas mal de vignettes backstage. Puis j'aime comment Impact font. Je trouve que c'est les plus belles vignettes de toutes les trois grosses compagnies. Côté artistiquement, comment c'est shooté. J'ai vu qu'est-ce qu'ils ont fait avec Eric Young cette semaine. Peux-tu me parler de ce processus-là? Parce qu'on sait que WWE, ils reprennent 200 fois. AEW font ça à leur manière, c'est un peu plus raw. Impact, c'est quoi le processus derrière faire ces vignettes-là?
L'équipe derrière tout ça est absolument fantastique. Côté production, ce qui est encore plus impressionnant, on peut pas faire 200 takes. On peut absolument pas. Le temps est limité. Je veux dire, il enregistre normalement. Si c'est un taping qui a pas de live event, c'est juste deux jours de taping. C'est quatre épisodes. Quatre épisodes enregistrés en deux jours, ça vient énormément beaucoup. Toute l'équipe qui tourne les pre-tapes, ils roulent sans arrêt. Pendant ces deux jours-là, c'est c'est très impressionnant, mais aussi la production qu'il y a derrière. Impact fait une excellente job. Tout ce qui est contenu, tout ce qui est média, tout ce qui est mettre du contenu en ligne, puis créer du contenu en plus de ce qui est présenté à la télévision, je trouve que Impact se démarque énormément dans ce côté-là.
Je veux y aller dans une question un peu plus pointue, Mike, alors qu'on commence vers la fin de l'entrevue. L'an dernier, il y a un petit peu plus d'un an, tu signais ton contrat avec Impact sur le dos de Josh Alexander à Toronto. On est dans la deuxième année de cette entente-là avec Impact. Est-ce que, justement, on n'avait pas su à l'époque si tu avais signé à long terme ou à court terme? Peux-tu nous éclairer un peu sur ton statut avec la compagnie? Est-ce que tu avais signé à long terme? Est-ce qu'il a fallu que tu renouvelles cette entente-là? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de détails là-dessus?
Oui, je vais être avec Impact encore longtemps. Puis je trouve que c'est absolument fantastique parce que j'ai eu mon premier match en simple contre Josh à Impact récemment, dont j'en parlais. Il va en avoir d'autres. Lutter encore quelques années avec Chris Bay, puis Ace Austin, puis Trey Miguel, c'est quelque chose qui m'excite énormément pour les prochaines années.
Je sais que les gens ils disent je trouve qu'on est dans l'ère où je veux pas dire que les gens respectent pas leur contrat, là, mais je trouve que les gens ils sont faciles à dire je veux m'en aller. Je trouve qu'à chaque semaine, il y a un nouveau lutteur qui veut quitter la compagnie X, la compagnie X. Bon, Y. Toi, mettons, j'aime le fait que tu me dis yo, moi je suis bien, moi je veux juste lutter chez nous, qui est Impact, je veux développer la compagnie. Maintenant, moi j'avais la discussion avec Pat que quand Bully Ray est arrivé, c'est bon pour la compagnie parce que ça avait plus de jeux sur la compagnie. Mais est-ce que toi, en tant que lutteur, t'es comme, je vais pas te mettre dans des positions, je veux pas que tu dis, oh, je veux pas que Bully Ray soit là, non. Vraiment juste autre, de l'autre côté. Est-ce que toi, t'es comme, damn, man, pas que je suis back of the line, mais là, je recule un peu plus dans mon objectif d'ultimement affronter Josh Alexander à Toronto pour la ceinture avec Impact.
Non, pas du tout. Tu sais, t'as entièrement raison dans ce que tu dis que Bully Ray amène quelque chose de différent que je peux pas amener à la compagnie. Puis je veux dire, c'est excellent pour Josh de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. Tu sais, il y a un mélange de styles. Je suis différent de Bully Ray. On remplit tous les deux des rôles très différents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la meilleure job possible dans le rôle qu'on m'a donné. Et je trouve qu'il n'y a pas de limite à ça présentement dans ma position. Mais non, mais ça me fait plaisir d'être là puis regarder, puis d'attendre. C'est pas comme si j'allais attendre mon tour en me tournant les pouces et je vais travailler fort dans ce qu'ils vont me donner. Puis je sais qu'ils vont me donner quelque chose de difficile puis d'intéressant.
Tu nous as dit que tu étais avec Impact à long terme. Ben, félicitations, on est content que tu sois avec la compagnie pour encore longtemps. Puis en terminant, Mike, ben écoute, t'es début trentaine, t'as encore l'avenir devant toi, mais à quoi on peut s'attendre de Mike Bailey pour l'année 2023? Y a-tu des objectifs que tu t'es donné ou y a-tu des matchs? Y a-tu quelque chose que tu veux absolument réaliser dans l'année ou sinon, de façon générale, ben, à quoi on peut s'attendre de ta prochaine année?
Je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, mais ma plus grande accomplissement dans la vie et dans la lutte, c'est de réussir à ce que chaque année soit meilleure que l'année précédente. C'est sûr que 2022 a été une grosse année, 132 matchs, beaucoup qui étaient excellents. Mon but, c'est de trouver le moyen d'en faire plus, trouver le moyen d'avoir plus de combats, des meilleurs combats, de faire un plus grand impact dans le monde de la lutte, puis encore une fois, d'augmenter ma valeur, de toucher le plus de gens possible. Puis tu sais, je mets pas de limites, je mets pas de contraintes, c'est pas une place en particulier. Le monde de la lutte évolue constamment, donc c'est de continuer à évoluer puis de performer à mon meilleur.
Ben écoute, nous, Mike, on se souhaite que tu reviennes nous voir au Québec en 2023. T'es pas venu depuis le mois d'août, puis on s'ennuie, les fans s'ennuient également. Alors pour vrai, un énorme merci d'être passé sur le podcast. J'adore jaser de lutte avec toi, Mike, puis c'est toujours un plaisir. Puis on te souhaite quoi?
Yo Mike, moi je suis fan. Donc j'ai un problème avec toi. Mais je vais le dire, j'ai un problème avec toi, Mike. T'as mis sur la map Zach Patterson. That's on you!
Donc, OK, à quand, Kevin, contre Zach?
Ça fait longtemps qu'on le demande, nous autres.
Okay, Zach n'est pas prêt pour moi.
Oh! Hey, Mike Bailey, merci énormément d'être passé sur le podcast. On te souhaite la meilleure des années 2023. Et comme je disais tantôt, ben on souhaite aussi de te revoir ici au Québec dans les 12 prochains mois. Merci énormément. Puis félicitations encore pour toute ton année 2022.
Merci beaucoup, Pat.
Alors, on est avec l'un des jeunes lutteurs québécois les plus prometteurs depuis qu'on l'a vu sur la scène depuis des années. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un jeune recrue en faire autant. Zach Patterson. Zach, content de t'avoir pour la toute première fois aux Antipodes de la lutte.
Content d'être avec vous aussi.
Là, j'espère que toi et Kev, vous êtes capables de vous parler. Là.
Non, on va coexister pour le bien des antifans. Pour le bien de l'entrevue, on va coexister. Juste mentionner qu'il est venu sous sa restriction avant de venir sur les antipodes de la lutte. Ceux qui n'ont pas écouté, allez écouter l'entrevue avec Zach ou le pod avec Zach. C'était excellent. Il a été très bon. Mais pour les biens de l'entrevue, hein, on va coexister. Même s'il m'a poussé la dernière fois, je l'ai vu. Je sais.
T'es capable.
Hey Zach, dis-moi, écoute, t'as eu une année 2022 assez extraordinaire, ta première année complète dans le monde de la lutte professionnelle. Yes. Si t'avais à me dire un moment, là, ton moment préféré de l'année? Ça serait quoi?
Ça va être le moment que j'ai eu la semaine passée, puis c'est contre le champion NGPW de New Japan, Jay White. Un contre un à la IWS devant un Olympia sold out ou quasi sold out.
Excuse-moi, Kev, j'allais dire, t'as quand même été au Centre Bell, t'as mis les menottes à Ronda Rousey.
Yes.
En quoi ce match-là avec Jay White était spécial pour toi?
Ben, c'était spécial parce que c'est un des meilleurs au monde, si c'est pas le meilleur au monde, selon certains points de vue. Puis j'ai beaucoup appris, ça m'a vraiment aidé, comme je me sens plus en contrôle de comment monter un match, structurer un match, avoir des idées, teaser des moves, puis aussi j'ai pu partager le ring avec un des meilleurs au monde, fait que je veux pas t'apprendre, puis tu laisses l'énergie rentrer en toi, puis avoir ce moment-là, c'était juste incroyable.
Là, moi, je suis, les gens qui écoutent le pod savent, je suis très high sur Jay White. Là. Jay White, c'est ma guy, puis comme tu dis, pour moi, si c'est pas le meilleur au monde, c'est un des meilleurs au monde. J'ai écouté le match, naturellement. Burt m'a envoyé le match le matin. Là. J'étais à 7-6, j'étais dans mon lit. La première fois, j'ai fait un réveillant, c'est regarder Zach Patterson contre Jay White. Et puis, là, toi, tu arrives vers le ring, là, OK? C'est quoi qui se passe à travers ta tête pendant que tu fais ton entrée? Parce que tu sais que l'un des meilleurs au monde s'en vient, puis ça va être strong style, là. C'est pas genre une petite bière, là.
Écoute, j'ai jamais été stressé de même, genre, peut-être de ma vie, là.
Wow.
Parce que, oh, ouais, non, c'était fou. Parce que d'habitude, j'ai du bon stress. Je suis quelqu'un qui est capable d'être en contrôle de, justement, ce genre de truc-là, puis je suis pas trop stressé, j'en fais pas un cas si jamais le match a pas été comme prévu. Je prends ça relax, puis je garde la tête haute, veux pas, ce qui arrive. Puis là, c'était juste ultra stressant. J'ai legit pas dormi la veille, genre de la nuit. Genre, si j'ai pu dormir de, mettons, 10h à 8h le matin, une heure là-dedans, éparpillée, c'est beau, là. Fait que c'était juste incroyable. J'en reviens encore presque pas, là, que j'ai pu partager le ring avec. Puis moi, dans le fond, une des affaires dans ce match-là qui m'a fait capoter, puis même en le revoyant, c'est que oui, c'est un des meilleurs au monde, puis il est meilleur que moi, mais j'avais pas l'air d'être genre, de pas avoir ma place là.
Mm-hmm.
J'étais capable de le suivre, j'étais capable de comprendre ce qu'il voulait, etc. Genre, comme, je sais que j'ai ma place dans un ring.
Puis bon, j'étais là en personne, puis je te l'ai dit, Zach, je te le confirme, là, t'avais l'air à ta place dans ce match-là. Dis-moi, t'as parlé à Jay White, j'imagine, après le combat. Qu'est-ce que vous êtes dit? T'as-tu donné quelques conseils, quelques petits trucs? Qu'est-ce que vous avez jasé?
Ben, on est revenu sur le match. Il a pas aimé comment il a pris deux bumps, là. Ça, c'est pas moi, là. C'est lui, là. Il arrêtait pas de s'excuser parce que mon F10, il a comme mal pris, là. Même s'il savait c'était quoi le move. Il a pris un peu tout croche, mais il a pas arrêté de s'excuser. Puis là, j'étais comme, pour le vrai, genre, tu pourrais t'en fixer de mal le prendre, puis je m'en fous, là. Genre.
Ouais.
Mais il a été super smart. Aussi, c'est une affaire de pacing dans le match que j'ai beaucoup comme appris parce que le pace du Japon puis le pace que lui il utilise il est vraiment différent que ce qu'on utilise ici. Fait que il y a un moment dans le match que comme m'a marqué puis j'ai appris de ça, c'est quand j'ai fait mes 3 gut wrench suplex. Lui, il aurait voulu que ça soit back à back à back pour que ensuite quand je tease la gut wrench powerbomb, il puisse me counter direct avec son move. Ce que j'avais pas compris, ce que je pensais pas qu'il allait se passer de même, puis que j'ai pris mon temps. Mais en même temps, il m'a dit que pour même pas un an et demi, c'est incroyable à quel point je prends mon temps puis je suis capable d'absorber le moment. Mais il aurait voulu que cette partie-là du match aille plus vite, comme ça, on a des effets de surprise un peu plus.
Ouais, c'est intéressant.
Une bonne analyse. Quand t'as vu ou quand t'as su que t'affrontais Jay White, ta première réaction, c'est quoi? Tu le dis à qui en premier?
Personne, parce que j'avais pas le droit de le dire.
Ah ouais, j'avoue, hein? Hey, hein?
Mais non, c'était fou ça, parce que dans le fond, la NSPW à Québec avait un show en même temps que la AWS. Puis moi, dans le fond, le booker de la NSPW m'avait envoyé des dates vraiment d'avance, contrairement à la AWS, qui ne m'avait pas envoyé, mais que je suis toujours là aussi. Puis que c'est là que je me suis entraîné. Fait que quand là, c'est arrivé qu'il y avait la même date, j'étais comme, faut déjà aller à NSPW parce qu'ils me l'ont donné d'avance, genre. Fait que, puis on a une storyline qu'on veut continuer à suivre. Puis c'est à ce moment-là que Andrew m'a dit écoute, je pense que tu vas vouloir reconsidérer ton choix. Là, j'étais genre, j'ai aucune idée genre, de qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, j'étais comme, à quel point je peux vouloir reconsidérer mon choix, genre. Parce que là, à la AWS, présentement, je suis en équipe avec Frankie the Monster.
Ouais.
Puis on se dirige vers les championnats par équipe. Fait que je me disais, my God, si je suis en équipe avec lui, à moins que ça soit genre une équipe comme FTR qui nous propose, je sais pas, genre, qu'est-ce qui ferait en sorte que je fasse comme, hey, la NSP, je vais aller à AWS. Puis là, c'est là que, dans le fond, il m'a dit de l'appeler un peu plus tard dans la journée pour me dire... pour me dire, dans le fond, qu'il faisait venir Jay White puis il voulait moi contre lui, un contre un. Puis là, j'étais comme, c'est impossible que je refuse ça. Là. Je peux pas refuser un match comme ça. Là. Ça a tellement... Ça m'a tellement aidé puis ça a tellement d'importance puis j'ai pu, comme, prouver à un paquet de monde que, genre, I belong here puis, comme, ouais. Que je suis capable de haine avec les meilleurs au monde.
Est-ce que la NSPW a été compréhensive dans ton choix?
Oui, totalement. Dans le fond, aussitôt que Jay White a été annoncé, puis j'ai pu appeler le booker de la NSPW, ben en fait, quand j'ai pu le texter, shout-out à Mike Bisson, qui est un homme extraordinaire, je l'ai texté, j'ai fait « Hey, quand tu as 2 secondes, peux-tu m'appeler, s'il te plaît? » Puis j'ai laissé mon numéro de téléphone. Fait qu'il m'a appelé. J'ai demandé comment ça allait. Puis là, right away, il m'a dit, laisse-moi deviner. Tu lutte contre Jay White. Et que t'en peux rien te cacher. Je lutte contre Jay White. Puis là, il était un peu déçu parce qu'on a une bonne storyline avec Lou O'Farrell à Québec. Que je sois pas là. Mais j'ai quand même pu y faire une promo pour que ça joue durant le show. Puis... qui explique un peu mon absence de ce moment-là, mais il a totalement compris, puis même lui, il serait trouvé insensé de genre être fâché pour ça.
T'es un peu... moi, je dis toujours que dans les... Puis je vais cogner du bois pour être sûr que ça
toucher
continue.
Du bois.
Ouais, on dit pas toucher du bois.
Yo, commence pas toi! Hey! Hey, t'es un peu comme moi dans le sens que moi je dis dans les médias je suis un peu la Suisse parce que je me promène partout sur tous les canaux de télé puis ça va sensiblement bien. Toi man, tu te promènes partout, toutes les shows, tous les combats. C'est comment être entre parenthèses la Suisse?
Mais moi j'aime ça. Là. Si je pouvais lutter à chaque jour de ma vie, je le ferais. J'aime tellement ça que comme. C'est sûr que j'aime ça quand il y a une storyline et on est impliqué dans quelque chose de plus gros que juste un simple match de lutte,
ouais.
Que à certaines places, j'ai pas la chance d'avoir. Mais à chaque match, je peux donner des nouvelles idées, je peux approcher une nouvelle façon de monter le combat, ou etc. Fait qu'à chaque match, j'apprends puis je me promène par-ci par-là, je fais des super belles rencontres pour des futurs bootings éventuellement.
Je te disais en début d'entrevue, Zach, que ça a été ta première année complète. On oublie des fois que tu as à peine un an et demi d'expérience dans le ring. Qu'est-ce qui est la chose que tu as le plus améliorée dans les derniers 12 mois?
Bonne question. Clairement, pour monter un match, je suis rendu vraiment plus solide que j'étais avant. Comme par exemple, les 2 matchs que j'avais... cette fin de semaine-là, c'est quasiment moi qui les ai montés de A à Z. avec mes idées, trouver une façon d'amener certaines affaires. Puis
la pomme tombe pas loin de l'arbre.
Ouais, non, c'est ça. Mais ouais, ça s'est vraiment amélioré. Sinon, dans le ring, je suis capable de sortir de ma tête puis de prendre plus mon temps aussi. De visualiser la foule, essayer de réagir à ce qu'ils disent, etc. Ça s'est vraiment amélioré parce que moi, je viens d'un background de lutte amateur que t'es tout seul, t'es dans ta bulle puis tu veux juste gagner. Fait que fallait que je sorte un peu de là pour que je sois capable de comme interagir avec la foule puis avoir une connexion avec eux. Que là, maintenant, je pense que je suis vraiment plus capable.
Kev?
OK, à mon tour. OK, c'est ça. Moi je suis... C'est moi qui ai posé la dernière question, mais c'est correct, là.
C'est moi qui viens de la poser, la
c'est
question.
C'est moi qui l'ai posé, la question.
De quoi tu jases? C'est moi qui ai demandé qu'est-ce qu'il y a le plus.
Non, c'est Pat.
Bon.
Dit la Suisse, puis Pat, il a dit qu'est-ce qui s'est amélioré.
Je vais quitter le Zoom, là. Hey.
Tu le feras.
Hey! Je me ferais pas intimider sur mon propre Zoom chez nous pendant qu'Elisabeth en lave, là. Oui, c'est ça. Explique-moi un peu, ben, sans nécessairement tout ouvrir l'envers du décor, mais comment ça se passe après les... Parce que moi, c'est la première fois que, lorsque je t'ai venu te voir, lorsque tu m'as intimidé, hein, puis je vais me reprendre, mais c'est la première fois que je restais un peu après un show avant qu'on me mette le serpent au cou, là. C'est la première fois que je restais un peu après un show. Explique-moi un peu comment ça se passe, parce que... Et tu sais, je te voyais parler à Pat de ton match, après ça, je voyais les boys ensemble. C'est quand même un ambiance très familiale. C'est pas comme on pense que c'est où tout le monde est un peu compétitif puis veut tirer la couverte de son côté, tu sais.
Ça dépend des places. Ça dépend des places, ça, c'est sûr. Mais après, comment ça se passe, dans le fond, moi, je reviens toujours sur le match avec mon adversaire ou mes adversaires, essayer de voir ce qui a pas marché, comment on aurait dû faire certains trucs. Puis aussi avec le promoteur ou le booker s'ils ont aimé le match pour être sûr que ma job a été bien faite puis que je vais me refaire rebooker à cette compagnie-là. Mais je veux dire, la fois à la AWS que t'es venu, on est resté dans le fond parce que Kevin avait eu un gros match puis il voulait qu'on reste boire un verre. Fait que là, moi, Kevin, je suis vraiment proche de lui. Fait que j'ai dit bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais moi, c'est rare que genre... En fait, je me saoule pas, premièrement. Fait que d'habitude, je finis mon match, je m'habille, je finis le show, je jase un peu, je dis bye à tout le monde, puis s'il y a quelque chose à jaser de plus particulier, je le fais, mais sinon, je quitte, puis j'essaie d'aller faire des bons petits dodos pour récupérer.
La fois que t'es resté, Kev, aussi, c'était spécial parce que le show se faisait dans un bar. Donc, ouais, des fois, c'est plus propice pour rester un petit peu plus longtemps, mais quand ça se fait dans une salle random, ben, tu sais, souvent, tu sais, tout le monde va pas mal partir chacun de son bar ou certains vont aller souper ensemble puis, tu sais, après ça, partir chacun de son bar.
Fuck le serpent, hein, qui continue.
Le serpent. Il y en a plus, le serpent, Frankie, en passant. C'est pour fini, vrai? Là. Il a lâché le Beast King.
Hey, il va peut-être revenir par moment, par contre.
Ah, OK.
Il est plus là à jamais.
OK, mais là, il est là moins fréquemment, d'abord, le serpent.
On n'en a pas besoin.
Ça va être son démon de Finn Balor.
Ah, je comprends. Ah, c'est nice. Ça, c'est nice. Hey, dis-moi, Zach, on en parlait l'autre fois, toi et moi. T'as à peu près affronté tous les gros noms de la lutte québécoise. Si t'avais une personne à me nommer au niveau local avec qui t'aimerais avoir un one-on-one, puis quelqu'un au niveau international, que ce soit États-Unis ou ailleurs dans le monde, mais du niveau indie, là, quelqu'un que la IWS ou que la NSPW ou peu importe pourrait faire venir ici pour t'affronter, ça serait qui ces deux personnes-là?
Comme tu dis, au niveau local, je les ai toutes affrontées pour de vrai. Mis à part, mettons, le TDT en one-on-one que j'ai pas pu affronter. Mais je me suis quand même combattu contre eux en équipe. Je veux dire, j'ai passé par Marco Estrada, Matt Angel, Kevin Blanchard, Matt Falco, TDT justement, Benjamin Toll, Frankie.
C'est sûr, ça aide quand ton premier match, c'est contre Mike Bailey, là.
Ouais, c'est ça aussi. Fait que je pourrais. Mais s'il y en avait un que j'aurais à refaire de quoi avec, je pense que ça serait Matt and Joel en un contre un parce que notre chimie est vraiment bonne. Puis ça roule pas mal. Puis on a fait un match ensemble contre. Puis je suis persuadé qu'on a beaucoup plus à donner que ce qu'on a fait. Même si c'était pas mauvais ce qu'on avait fait, moi j'ai vraiment aimé le match, mais je suis sûr qu'on peut vraiment étendre ça pas mal plus large que juste un petit match au Saguenay.
Moi, je suis à l'international.
À l'international, ça, c'est une maudite bonne question. Je te dirais que un gars comme Cesaro, j'ai tout le temps trippé dessus, là. Cesaro, pour comme la force un peu que je démontre dans mon personnage, ça pourrait faire de quoi d'intéressant.
Moi, je sais contre qui.
Vas-y.
Moi, là, il y a un match que tu peux prendre mon argent, OK? Puis c'est un match qui est possible à faire. Puis tu sais quoi? Je suis prêt à mettre de l'argent dessus pour voir ce match-là, OK? le partner à AEW, la Takeshka.
Ben oui, c'est avec lui que j'allais dire. Là. C'est celui que je m'emmenais. Konosuke Takeshita est juste incroyable. Juste incroyable. Speedball Mike Bailey, justement, qui est mon coach... quand je m'entraînais durant la pandémie, il me parlait souvent de lui, justement, que je devrais m'inspirer de lui ou que je devrais vérifier ses matchs un peu plus. Puis, pour vrai, je suis totalement vendu. Là. Le gars est juste incroyable. Là. Il y a des plus belles German Two-Plate Bridge que j'ai jamais vues. Là. C'est flawless. Ça serait vraiment malade que je puisse lutter contre aussi. Là.
C'est à toi, Kev.
Moi, tout ce que. Je suis en train de parler, fuck! moi, tout ce que je sais, là, OK? Tout ce que je sais, c'est que t'as pas nommé mon nom. Bah, we good.
T'as pas mais non, mais t'arrêtes pas de me skip.
Non!
Skip.
Je skip pas. Non, je skip pas.
Loue un IGA qu'on se batte ta barouette.
Non, moi là, j'ai essayé de le louer, le goddamn IGA, OK? J'ai essayé de louer le IGA pour te foutre une volée. Mais ça coûte plus cher que je pense parce que je sens qu'on va briser des trucs dedans.
Il y a sûrement des plus petits supermarchés, là, voyons.
Non, moi, je me bats pas dans des petits supermarchés. Je suis pas comme vous, les lutteurs indépendants qui se battent dans des gymnases d'école. Non, moi, I want that real shit.
Okay? Wow.
Puis quand...
Dans un ring? Tu veux le real shit dans un ring?
Hey, fais attention à ce que tu demandes. Moi, j'étais un all-pro football player avec Lionel Grou, capitaine de l'équipe. Moi, j'étais le samedi quand je jouais au hockey, je suis le meilleur sur la glace. À la classique carrière, j'ai marqué un but.
Tu veux
j'aille
peur, Kev. Mais Zach, ça s'en vient pas.
Zach, tout ce qu'il parle là, il s'en souvient même pas à cause des commotions qu'il y a eu au football. Fait, ça compte pas vraiment, tu sais.
Moi, tout ce que je dis, OK, c'est Zach, be aware, watch your back. Parce que je connais plus de gens dans la business que tu penses. I'm just saying.
Hey,
tu me skip pareil.
Je vais reprendre. Hey, les gars, je vais reprendre le contrôle. Je vais reprendre le contrôle de cette entrevue-là.
Hey.
Zach, avant qu'on termine, je vais absolument te poser cette question-là. Puis je veux pas te mettre dans l'embarras. Fait que tu sais, choisis ce que tu veux me répondre, mais je suis quand même curieux. Tu as été un des rares, quand même, ou un des quelques au Québec qui a eu la chance d'être extra à la WWE et à AEW au cours de la dernière année. Si t'avais à me dire une ou deux, trois là différences que t'as notées entre les deux compagnies. Puis encore là, je veux pas te mettre dans l'embarras. Là,
tu vas
sûrement vouloir signer pour une des deux compagnies à un moment donné. Fait que ça serait quoi? C'est quoi ton feeling? Qu'est-ce que t'as trouvé qui était différent dans l'approche ou dans les journées que t'as passées là?
C'est comme on dirait deux philosophies différentes. AEW, t'es considéré en bas de tout le monde là-bas, mais t'es quand même considéré en tant que worker, puis t'es là pour faire ce qu'ils ont besoin. Tandis qu'à WWE, on dirait que t'es plus considéré comme genre quasiment un gars pris sur le bord de la rue, genre. C'est dur à expliquer, mais comme WWE. T'as le droit d'être au catering, t'as le droit d'être ringside, mais pas vraiment ringside, l'autre bord des barricades, t'as pas le droit d'être proche du ring. Ensuite, t'as le droit d'être dans ta petite loge de plateau à balai d'extra. Et t'as tu as le droit de trouver comme une TV à quelque, pas trop loin de ça pour regarder le show. Ça, c'est la seule place que tu as le droit d'aller à WWE. Ils veulent pas que tu te promènes partout, etc. Tandis qu'à AEW, c'est plus free. Tu peux vraiment, comme, il n'y a pas de « on te veut là à telle place, on te veut ci là ». C'est vraiment plus free. Ils te font un meeting, tu te changes, puis après, tu peux te promener un peu comme tu veux.
Un vestiaire de lutte plus normal, mettons.
Ouais, exact. Exact. Parce que c'est ça, c'est plus un vestiaire de lutte normal, tandis qu'à WWE, c'est plus business. Le monde du maquillage sont là, puis ils restent là. Toi, t'es un extra, fait que tu restes là. Ils veulent pas que ça se mélange trop.
Moi, je suis d'accord! Je suis d'accord!
D'accord avec quoi?
Je suis d'accord que les gens ne devraient pas se mélanger. Ça se mérite.
Ah, bon.
Mais c'est vrai. Non, mais là, je niaise pas. C'est une vieille mentalité, ça. C'est une vieille mentalité. Puis naturellement, bon, on sait que c'est la mentalité peut-être Vince McMahon qui veut ça comme ça. Puis peut-être de nos jours, avec la mentalité Tony Khan, on y va plus dans le laisser-aller, dans le lousse. Mais moi, j'aime ce que tu m'expliques parce que moi, je suis plus dans la mentalité vieux jeu de... Man, ça se mérite d'aller au bord du ring, ça se mérite d'aller s'asseoir à la telle table. Ça... Tu sais, mettons, quand j'ai commencé à TVA Sport, mais je faisais attention. Tu sais, j'allais pas dans la ben, tu la connais bien, la pièce de Dave, là, le petit locker de Dave, là, Pat, là. Bon, moi, j'allais pas dans cette pièce-là parce que je trouvais pas que je méritais d'aller dans cette pièce-là. Puis c'est juste moi, c'est pas eux qui me disaient de pas y aller. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans... Ben, je gravis les échelons, puis à chaque petite étape que je gravis, ben, hop, là, je peux être à côté du ring, hop, là, je peux être ici. Oh, là, c'est peut-être moi qui est vieux jeu aussi.
Non, mais je comprends ça, mais je pense qu'il y aurait un bon juste milieu à faire entre les deux.
OK.
Sans nécessairement te faire dire, écoute, va où ce que tu veux, puis on va te trouver ou whatever, puis t'as le droit d'être à ces trois places-là précisément. Je pense qu'il y a quelque chose à faire entre les deux pour que tout le monde se sente le plus confortable possible. Parce qu'en même temps, c'est sûr qu'il doit y avoir des lutteurs à WWE qui ne doivent pas triper qu'il y ait du monde qui se promène un peu partout. Puis, mais en même temps, c'est pas tout le temps le fun pour les extras de comme se faire dire ça de même. Puis, on se fait pas maltraiter, là, loin de dire, on se fait bien traiter, mais tu sens que t'es quasiment comme une pièce qui peut changer très facilement, genre. Puis ça, c'est un petit peu moins fun.
C'est ça, être un extra, man. Moi, je suis d'accord.
Bon.
C'est comme un figurant dans une série télé.
J'allais donner la référence du figurant. Ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui est figurant sur un plateau de tournage. Il n'y aura pas nécessairement les mêmes accès ou il sera pas nécessairement, tu sais, il changera pas nécessairement aux mêmes endroits. Il n'y aura pas nécessairement une loge.
Il n'y aura même pas accès aux acteurs entre les scènes. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'avais été figurant, un de mes premiers figurants, j'avais été figurant sur Med. Puis je connais Med, tu sais, on a grandi, mais Mehdi, je connaissais Mehdi, puis j'avais été figurant, j'avais une petite scène, puis je parlais dans la petite scène. Parce que je parlais, là, j'avais un petit peu plus accès parce que je devais parler à l'actrice. Mais même si je connaissais Med, on n'avait même pas le droit d'aller chiller avec. Même si je le connaissais, on mangeait de notre côté. Puis bon, là, j'écoute pas les règlements, je me faufilais. Mais ce que tu m'expliques, c'est, je te dis, là, c'est exactement la job de figurant, puis je trouve ça nice. Je trouve ça nice que... C'est au mérite, tu sais.
Hey, non, c'est sûr, mais je suis sûr qu'on pourrait trouver un juste milieu entre
Mais je suis d'accord avec toi.
Moi, je suis du bord à Zach aussi. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver là-dedans parce qu'à la fin de la journée, oui, je comprends l'affaire du mérite, mais en même temps, tu sais, c'est des workers que tu fais venir, c'est des, tu sais, bon, toi, Zach, t'avais pas beaucoup d'expérience quand tu y as été à la WWE encore, mais il y a des lutteurs, tu sais, entre autres, t'étais avec Casey Spinelli qui lutte depuis au-dessus de 10-12 ans, probablement des fois même plus que certains des lutteurs ou lutteuses sur le roster de la WWE. Tu sais, je pense qu'il y a peut-être un milieu à aller chercher là-dedans. Hey, le temps file, les gars. En terminant, Zach, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année 2023?
Ben, hopefully, un try-out ou un contrat, peu importe où. Je sais que ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça, mais comme, je suis sûr que justement, j'ai plus haine avec Jay White. Si je peux haine avec Jay White, je peux sûrement haine avec à peu près n'importe qui. Sans dire que je suis meilleur qu'eux, sans dire que je vais contrôler le match. Je veux dire, j'ai haine avec. Fait je vois du monde à TV que clairement pourrait peut-être pas haine avec ou que moi je pourrais leur apprendre des trucs. Fait un try-out, un contrat pour qu'ils puissent finalement me voir à mon plein potentiel puis voir que je peux être un atout à X compagnie.
Tu veux juste une chance?
Yes.
Mais j'aime besoin de ça. J'aime ce que j'entends, Zach, parce que tu trouves une façon d'avoir une confiance en toi tout en étant le plus humble possible là-dedans. Puis c'est pas donné à tout le monde. Puis bon, les gens le savent. Bon, évidemment, je connais ton père depuis des années et des années. Puis je vois un peu tantôt, Kevin disait la pomme est pas tombée loin de l'arbre. Ben, je vois ça aussi. Je vois un peu de ton père là-dedans. Puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Une belle attitude. Puis on te le souhaite, mon Zach. C'est pas 2023, ça va arriver. J'en suis convaincu dans un avenir très rapproché. Écoute, Zach.
On est fiers de toi, Zach. On est fiers de toi.
On est fiers de toi. Lâche pas.
Je veux que tu te rappelles, hein. Tu te rappelles? T'es venu me voir à WrestleMania à New Jersey. T'as dit, Kev, j'aimerais prendre une photo avec toi. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? T'as dit, je veux devenir lutteur. Puis je t'ai donné les conseils. Je t'ai donné les conseils de wisdom.
T'es-tu en train de dire que c'est Zach te doit sa carrière? Là?
J'ai donné le wisdom. J'ai dit, si tu continues, tu vas y arriver. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Un an plus tard, tu te bats contre Jay White. Ou quelques années plus tard, tu te bats contre Jay White. C'est quoi, Zach? T'es le bienvenu, Zach. T'es le bienvenu.
Ah, hey, je m'excuse, Zach. Je m'excuse pour Kevin. Mais pour vrai, merci beaucoup d'être venu aux Antipodes. Félicitations pour ton année 2022, mon gars. Puis on te souhaite une meilleure encore année 2023.
Merci beaucoup. J'apprécie grandement.
Trois superbes entrevues.
OK, on fait la conclusion de suite?
Où tu veux faire ça, la conclusion? On est à la fin de l'émission. Pour vrai, merci beaucoup à nos invités.
Il est encore 1h du matin dans le studio.
Non, il est rendu 2h30.
Non, il est 1h du matin. On vient de faire l'intro. On a fini l'intro à 1h01. Il reste 40 secondes. Il est 1h02.
T'es une marde, Kevin Raphaël.
T'es une marde. Il est 1h du matin.
Parle le thème, Fred.
On aurait pu tout faire ça chez nous. Demain.
Je te déteste.
Check bien l'intro du prochain podcast.
Merci beaucoup à nos invités PCO, Mike Bailey, Zach Patterson.
1h du matin, on vous souhaite, parler, là.
Si vous souhaitez Noël, on vous souhaite un joyeux Noël. Sinon, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit... dans quelques jours.
C'est pas vrai, rendez-vous. On fait ça là.
Tu gosses.